RFI, grand reportage.
Arnaud Dubus.
Nous sommes dans un village musulman au bord du Mékong, le village de Laviatam. C'est un ensemble de maisons plutôt misérables, aux toits de feuilles et aux planches mal jointes. Elles s'alignent entre le fleuve aux eaux brunes et une route poussiéreuse. Dans cette région de la province de Kratié, dans le nord-est du Cambodge, les pluies sont brutales et dévastatrices et le niveau du Mékong varie de manière imprévisible. Les inondations éclairs sont aussi courantes qu'inattendues. Un phénomène que des spécialistes lient au réchauffement climatique. Face à son champ, d'où émergent quelques plants de riz déjà flétris, une paysanne, Mo Mayas, explique ce qui s'est passé.
Cette année, le niveau de l'eau est monté. J'ai attendu jusqu'à ce que l'eau se retire pour essayer de planter des pépinières. Mais ensuite, l'eau est de nouveau montée et a détruit tous les jeunes plants de riz. À chaque fois que l'eau s'est retirée, j'ai recommencé à planter, mais la parcelle a été de nouveau inondée. C'est à cause de cela que les pépinières sont très médiocres cette année.
Concrètement, cette femme qui a perdu son mari pendant la période des Khmers rouges ne peut pas compter sur le produit de sa rizière pour se nourrir elle et sa mère âgée de 95 ans. Un de ses frères est parti en Thaïlande pour y chercher un travail en promettant d'envoyer de l'argent, mais depuis un an, il n'a donné aucune nouvelle. Mo Mayas doit donc trouver elle-même une solution pour assurer la survie de sa famille.
Face à cette situation, j'essaie de vendre de la soupe de riz. Je coupe aussi des grandes feuilles d'arbres qui permettent de construire des toits. Je les envoie à Phnom Penh pour qu'elles puissent être vendues. Je ne peux pas travailler comme journalière pour d'autres riziculteurs. Je pense que les revenus de mon travail ne sont pas suffisants pour ma famille, mais je n'ai pas d'autre solution.
À quelques centaines de mètres, dans le même village, une autre paysanne est assise au bas de sa maison sur pilotis, un bébé de quelques mois dans les bras et ses sept autres enfants autour d'elle. La tête couverte du kroma, le foulard traditionnel cambodgien à petits carreaux, et leur seau allaitent son nouveau-né. Selon elle, le village connaît depuis 2 ans une recrudescence de maladies, notamment la dengue hémorragique et le paludisme. Sa famille n'a pas été épargnée.
Un de mes enfants avait une forte température, mais quand je touchais sa main, elle était froide. Je l'ai amené au centre de santé, le docteur a dit que c'était la dengue. Quand il s'est rétabli, un autre est tombé malade, tous mes enfants ont été touchés. Un a attrapé le paludisme et les 7 autres, la dengue.
Au bureau provincial de la santé dans la ville de Kratié, à une demi-heure de route du village, le docteur Cheam Sa M confirme qu'il y a eu une augmentation des cas de paludisme dans la province. Selon lui, les paysans dont les rizières ont été détruites par le climat partent travailler dans la forêt où ils sont plus exposés aux anopheles qui transmettent le paludisme. Mais il établit aussi un autre lien entre l'augmentation de ces maladies et le changement de climat, notamment les modifications dans le régime des pluies.
On a constaté beaucoup de pluies. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, peut-être 7 jours continuer comme ça. Et repos peut-être 10 jours. Il y a des pluies encore comme ça. C'est ici, c'est facile pour les anopheles de épongler ceux dans les lacs comme ça. Et c'est nous, notre stratégie politique contre le paludisme. Nous, dans les éléments, la prévention serait couchée dans les moustiquaires. Et là, s'ils sont malades, il faut traiter au centre de santé, à l'hôpital.
Plus des 2/3 des Cambodgiens vivent dans les campagnes et sont victimes des variations climatiques. Comme d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la plupart des provinces du Cambodge connaissent une alternance entre des périodes de sécheresse intense et des fortes pluies sans qu'il soit possible de les anticiper. Tin Pun Lok, du ministère de l'Environnement, est monsieur au réchauffement climatique au Cambodge. Il est l'auteur du plan national d'adaptation qui met en place des stratégies pour aider les paysans à faire face à cette météo imprévisible et capricieuse. Tin Pun Lok explique les principales lignes de ce plan d'action.
The focus of the adaptation plan in agriculture is really mainly on water management.
Le focus du plan d'adaptation pour l'agriculture est principalement sur la gestion de l'eau et sur les façons d'améliorer le stockage de l'eau. Nous proposons aussi une diversification des produits agricoles et le développement d'une agriculture intégrée.
Say integrated farming, which I mean provide other sources of income to people.
Celle-ci peut fortement augmenter les revenus des paysans. Ils ne doivent pas seulement miser sur un seul type de culture, ils doivent élever aussi des animaux et cultiver des légumes, pas seulement du riz.
Planting vegetables, not just rice.
Une nouvelle technique de culture du riz a aussi été introduite au Cambodge. Yang Sen Koma, un ingénieur agronome, a trouvé cette méthode, baptisée le système d'intensification rizicole ou SRI, à Madagascar. Il l'a amenée au Cambodge en 1999. Elle consiste à sélectionner plus rigoureusement les graines, à planter une seule graine à la fois, puis à transplanter les jeunes plants de riz de manière espacée et régulière. Cette technique permet d'accroître fortement le rendement des rizières. En 2000, elle était utilisée par 28 agriculteurs. Ils sont aujourd'hui 60 000 à cultiver le riz selon cette méthode au Cambodge. Celle-ci a aussi le gros avantage de permettre aux paysans de s'adapter aux effets du changement climatique, comme l'explique Yang Sen Koma.
And how it respond to the climate change or how it can help the farmer to adapt to the climate change?
Comment cette méthode répond aux effets du changement du climat? Comme le régime des pluies est devenu imprévisible, la situation est difficile pour les paysans. S'ils attendent de l'eau en quantité suffisante, ils ne peuvent pas cultiver le riz ou ils doivent le cultiver très tard dans le cycle agricole. Avec cette méthode, dès que le sol est humide, ils peuvent commencer à cultiver le riz. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait suffisamment de pluie.
L'organisation non gouvernementale britannique Oxfam s'est aussi investie pour aider les agriculteurs cambodgiens à s'adapter aux effets du changement climatique. Dans certaines régions, Oxfam distribue des bicyclettes aux paysans affectés pour qu'ils puissent trouver des sources alternatives de revenus, par exemple en confectionnant des gâteaux pour aller les vendre au Vietnam voisin. Dans les villages proches du Mékong, l'ONG donne des bateaux de pêche pour que ceux dont la rizière a été détruite puissent tout de même se nourrir. Pour Nikki Wimble, directrice de la communication à Oxfam, le débat sur le réchauffement climatique tend à se focaliser sur les chiffres et sur les seuils à atteindre et à oublier l'impact humain de ces changements.
Le côté humain s'est complètement oublié en ce moment. On parle beaucoup d'émissions de carbone et comment les peuples dans les pays riches peuvent éliminer leurs propres émissions. Mais ça, c'est quelque chose qui va aider le climat dans l'avenir. Maintenant, c'est les peuples dans les pays pauvres qui souffrent. Et on a complètement oublié de leur souffrance. Et pour Oxfam, c'est très important qu'on parle également d'adaptation et comment aider les gens bien adaptés aux les problèmes de changement de climat et chauffement de planète.
Nous partons maintenant pour une autre province du Cambodge, celle de Sve Rieng, à l'est, tout près de la frontière vietnamienne. Cette province est l'une des plus touchées par la sécheresse dans le pays. Dépourvue de système d'irrigation, elle est considérée comme une zone prioritaire dans le plan gouvernemental d'adaptation aux effets du changement climatique. Sre Somsak, une jeune paysanne de 24 ans, se tient face à sa rizière inondée, d'où émergent quelques plants de riz ça et là. Selon toute apparence, une récolte gâchée.
C'est mon champ. Il a été détruit à cause du manque d'eau. La pluie a commencé seulement la semaine dernière. J'ai planté les graines dans la pépinière au moment où, habituellement, la pluie commence à tomber. Mais malheureusement, il n'a pas plu à temps. Des insectes sont venus et, comme vous le voyez, ont détruit tous les plants de riz. Je pense que cette année, la récolte de riz ne pourra supporter ma famille que pour une période de 2 à 3 mois et non pas pour toute l'année.
Dans une région aussi durement touchée par la sécheresse, la culture du riz dans des conditions normales, c'est-à-dire en plantant au début de la saison des pluies et en récoltant à la fin, est pratiquement impossible. Pour s'adapter à cette situation, une nouvelle méthode de culture a été introduite, comme l'explique Thun Pinkeo, officier de communication régionale d'Oxfam.
The government and the people here have been trying for a few years since the drought.
Depuis que la sécheresse a empiré il y a plusieurs années, le gouvernement et les paysans ont essayé d'utiliser un type de semence de riz dit hors saison. Il n'a besoin que de 100 jours pour pousser et ne nécessite pas beaucoup d'eau de pluie. Il produit un riz à grain court qui est vendu au marché, mais qui se vend à un prix inférieur à celui du riz traditionnel.
Is sold at a lower price than the traditional rice, which is a long grain rice.
Nous arrivons dans une autre ferme à quelques kilomètres de celle qui est ravagée par la sécheresse. Celle-ci est totalement différente. Une maison simple en béton et au sol carrelé est environnée d'étangs de pisciculture, de rizières aux plans bien développés et d'arbres fruitiers. Une sorte d'oasis agricole au cœur d'une zone frappée par la sécheresse. Cette ferme a bénéficié de l'assistance de PADEC, une organisation partenaire d'Oxfam qui a aidé au creusement des étangs piscicoles. Le maître des lieux est Mea Spout, un paysan de 68 ans, au rire éclatant et à la peau foncée de ceux qui travaillent toute la journée dans la rizière. Il montre avec fierté comment il produit de l'électricité grâce au biogaz émis par un mélange d'engrais porcins et d'eau. Mais c'est avant tout la parfaite intégration entre les étangs d'élevage de poissons, les rizières et les autres cultures qui font de ce lieu une ferme modèle, comme l'explique Mea Spout.
Au début de la saison des pluies, quand la rizière est entourée d'eau, je mets les alevins dans le canal de terre autour de la rizière. Ensuite, quand il y a suffisamment d'eau, je transplante les pousses de la pépinière dans la rizière et j'y libère les alevins. Les alevins se nourrissent dans la rizière et quand le niveau de l'eau dans l'étang est suffisamment élevé, je transfère les alevins dans l'étang.
Assis sur une table à l'entrée de la maison, Kim Sapoon, l'épouse du paysan, est en charge des étangs piscicoles. Ils servent en fait de véritables systèmes d'irrigation pour le riz et les autres cultures, ce qui permet de déjouer les effets néfastes de la sécheresse.
Je remplis l'étang avec l'eau du puits. Si la rizière a besoin d'eau, je transfère l'eau de l'étang dans le champ. Et quand le niveau d'eau doit être abaissé, bien je pompe l'eau pour la transférer à nouveau dans cet étang.
Utiliser des nouvelles méthodes agricoles n'est qu'un des moyens de s'adapter aux effets du changement climatique. Une organisation non gouvernementale française, qui s'appelle GERES, a adopté une autre approche. Elle a développé un nouveau modèle de foyer pour la cuisine quotidienne dans les zones rurales et pauvres du Cambodge. Un projet qui permet de préserver les forêts, comme l'explique Sylvain Minkim, directeur technique de GERES.
Alors, dans toute l'Asie du Sud-Est, vous pouvez trouver des fours en terre cuite, que ce soit au Laos, en Thaïlande et au Cambodge, mais qui ont des performances qui sont assez faibles. On va dire, pour parler techniquement, un rendement autour de 18%, voire moins. Et le GERES a repris ce concept-là et a optimisé ce foyer traditionnel afin d'améliorer, ses caractéristiques et diminuer les consommations de bois des Cambodgiens, enfin des familles cambodgiennes. Tout a commencé avec des potiers. Les potiers étaient habitués à faire des foyers traditionnels. Donc il y a eu un gros travail d'étude pour savoir dans quel cadre ils le faisaient, parce que d'un point de vue production, mais aussi commercialisation. Et ensuite, le GERES a fait de la recherche et développement pour savoir, sur tel ou tel paramètre modifié, qu'est-ce que cela implique en termes d'efficacité, qu'est-ce que cela implique en termes de production, en termes d'utilisation et aussi de commercialisation. Et au bout de 5 ans, le GERES a trouvé le meilleur compromis et a commencé à former des producteurs de fours.
Pour cette ONG française, comme pour Oxfam, dans un pays au développement économique encore embryonnaire comme le Cambodge, la problématique des émissions de gaz à effet de serre n'a que peu de signification. La priorité doit être un développement économique adapté aux conditions locales et durables.
Je dirais que vu du Cambodge, ce discours-là, maîtrise de l'énergie, est pas adapté. On travaille avec des populations qui sont souvent sous-alimentées, qui ont un niveau de vie qui est quand même très faible. Et je pense qu'avant tout, ce projet montre qu'il est possible d'améliorer le niveau de vie de population tout en préservant l'environnement.
Par faute de moyens financiers, le Cambodge n'a pu envoyer que 2 délégués gouvernementaux au sommet de Bali. Comme beaucoup de pays en voie de développement, le Cambodge attend pourtant beaucoup des négociations pour la période de l'après-protocole de Kyoto, c'est-à-dire à partir de 2012. Tin Pun Luk, du ministère cambodgien de l'Environnement, explique ce que le Cambodge espère de ce sommet.
We expect better commitment toward adaptation.
Nous attendons un engagement plus ferme sur les activités d'adaptation. Nous espérons aussi de meilleures mesures d'incitation pour aider à la préservation de nos forêts. Si vous regardez le premier protocole de l'accord de Kyoto, on parle seulement de mitigation, de réduction des gaz à effet de serre, pas d'adaptation. Il n'y a pas d'engagement contraignant sur la nécessité de mettre en place des mesures d'adaptation.
Greenhouse gases is not my adaptation. So there's no binding commitment on how to address adaptation.
En substance, le message est qu'il faut aider maintenant les populations des pays en voie de développement qui souffrent de l'impact du réchauffement climatique, un appel qui risque de se perdre dans les complexes débats sur les seuils d'émissions de gaz à effet de serre. Arnaud Dubus, Phnom Penh, RFI.